Je commence ce podcast en vous souhaitant une excellente année. Et j'ai choisi justement de vous présenter mes 5 accélérateurs de bonheur pour les utiliser dès aujourd'hui pour au moins l'année qui s'écoule devant nous. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute, et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous puissiez vivre votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année qui commence sur les chapeaux de roue. J'ai envie de, avant d'aborder le sujet du jour, partager quelques remerciements pour des commentaires qui ont été postés sur le tout dernier podcast de l'année qui s'intitulait « Attendre sans rien attendre », dans lequel j'aborde la question des cadeaux, de ce qu'on attend de l'autre, et en fin d'année, eh bien on attend soit de la présence, soit des cadeaux, et la présence est également souvent accueilli comme un cadeau, savoir ce que ça veut dire quand on offre un cadeau adéquat, un cadeau inadapté, comment le vivre, ce qui se véhicule dans toute cette dynamique, et puis également des exercices, 4 exercices pour accueillir l'autre, qu'importe le cadeau qu'il nous offre. Deuxième exercice, dire ce que vous pensez avoir voulu transmettre dans le cadeau que vous transmettez, que vous offrez, apprendre à se dire et accepter la fluctuance dans la manière dont les personnes nous offrent des cadeaux. Et puis j'ai vu quand même pas mal de commentaires. Je voudrais remercier Martinez, remercier Caro de Natura Coach, qui est un blog. Remercier également Benoît, Christelle, Caroline. Et je prendrai juste un extrait du commentaire de Caroline qui dit « C'est un super article qui me renvoie à ce que je vis. » Merci Caroline de qualifier cet article de super. Et elle précise « Quand j'étais enfant, ma mère arrivait toujours à trouver le cadeau, elle l'écrit en majuscule, le. Mais depuis que je ne lui parle plus, poursuit-elle, personne n'arrive à me donner la même émotion. » Vous entendez, elle parle d'émotion, pas de cadeau. Et je remercie Caroline pour ce témoignage qui met vraiment en évidence le fond du sujet que j'ai abordé avec vous dans ce podcast « Attendre sans rien attendre », podcast ou article si vous allez sur le blog Heureux au présent, et que vous préférez le lire en sous forme d'article, tout simplement. Pour notre sujet du jour, j'ai choisi de commencer l'année en vous donnant une sorte de booster de bonheur, en vous présentant mes accélérateurs de bonheur. Je vous en présente 5, mais il n'y en a pas que 5, en tout cas dans mon existence, il y en a plus de 5, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être déjà d'en présenter 5, je ne sais pas ce que je ferai la semaine prochaine, est-ce que je continuerai pour en présenter 4 ou 5 autres ou pas, mais déjà, dans un premier temps, en voici 5. Il n'y a pas d'ordre de priorité dans les 5 accélérateurs de bonheur que je vous présente aujourd'hui. J'ai choisi de vous les présenter comme, je dirais, ça m'est venu, pour que vous puissiez tout simplement en tirer le meilleur. Le premier accélérateur de bonheur, c'est de mesurer ses progrès. Vous entendez que mesurer ses progrès nous invite à nous retourner sur l'année qui s'est écoulée, ou au moins sur des événements qui se sont écoulés, qui sont passés, qui sont proscrits, qui sont terminés, achevés. Ça veut dire que si on veut accroître son bonheur, il est nécessaire de regarder son passé, son histoire, sa manière d'avoir vécu les choses et ce qui s'est produit. Mais en fait, on a besoin, dans un ordre de priorité, de regarder d'abord ce qui s'est passé, ce sur quoi on n'a aucune prise, dans la mesure où on ne peut pas diriger les événements et faire qu'ils se déroulent de telle ou telle manière ou de telle autre. Et ensuite, aller se centrer sur le vécu émotionnel, comment j'ai vécu la chose sur le plan émotionnel, comment j'ai ressenti la chose dans mon corps, où est-ce que j'ai ressenti la chose, quelle expérience enrichissante peut-être en ai-je pu tirer, peut-être quelle expérience non enrichissante ai-je pu en tirer. En tout cas, est-ce que j'ai l'impression d'avoir progressé? Si oui, dans quelle direction, dans quelle mesure, quelle proportion? Et est-ce que j'ai l'impression de ne pas être le même que dans le passé? D'ailleurs, il y a un podcast dans lequel j'évoquais que quelqu'un dit, ah non, je crois que c'est sur la chaîne YouTube, j'ai posté, tu n'as pas changé. J'ai dit, si quelqu'un vous dit tu n'as pas changé, il y a un problème, parce que vous devez avoir changé. Vous devez progresser. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses qu'avant, comme avant, sans qu'il n'y ait de progrès. Et peut-être même, j'ai envie de dire, même pour des choses toutes simples. Le simple fait peut-être de maintenir une qualité de résultat peut constituer un progrès. D'accord ? Donc c'est aussi intéressant de le regarder et dans un premier temps d'avoir une capacité d'avoir une lecture rationnelle sur la notion de progrès et non pas subjective. Qui veut dire lecture rationnelle implique une capacité à objectiver des critères d'évaluation pour ne pas envisager une évaluation de son progrès à un moment où on n'est pas en forme, où on n'a pas le moral, où on est pessimiste et où on aura tendance à abîmer sa propre évaluation. Donc, mesurer ses progrès est un moyen d'accélérer le bonheur parce qu'on va prendre conscience, on va prendre la photo, on va repasser le film de certaines choses qui se sont passées, qui se sont écoulées et qu'on va mesurer à l'instant T, et encore, j'ai bien dit, avec des éléments rationnels, objectifs, le mieux étant de se projeter avec les grilles d'évaluation au moment où l'on se lance, plutôt que de faire la grille d'évaluation à la toute dernière minute ou au moment où on va procéder à l'évaluation. Je voudrais enrichir ce premier accélérateur de bonheur en partageant le témoignage de Hiroshi Mikitani, j'ai essayé de ne pas abîmer son nom, qui est un Japonais qui a fondé le site e-commerce Rakuten en 1997, qui est le seul site de vente d'occasion en ligne qui garantit l'achat, et qui dit, enfin, il a fondé carrément une courbe qu'on appelle la courbe Mikitani, qui porte son nom, qui est un système de mesure. Et il explique ceci, c'est un concept ancré dans l'idée que la qualité progresse ou régresse par incrémentation de 0,5%. Donc il s'applique généralement aux produits, mais peut également être un outil de mesure du développement personnel. Quand vous finissez, dit-il, une de vos tâches, ne vous arrêtez pas là. Dédiez-y un tout petit peu plus de temps. Vous ne pouvez certainement pas améliorer grand-chose, mais peut-être un petit incrément de 0,5%. Et ces petites finitions font la différence à long terme et seront remarquées avec le temps. Alors merci à monsieur Mikitani, je n'ai pas abîmé son nom cette fois-ci, fondateur de Rakuten, parce que je trouve assez intéressant de se souvenir qu'en fait, le progrès ne demande pas une énorme modification, un changement considérable. Monsieur Mikitani parle de 0,5%. Alors c'est vrai qu'en termes de développement personnel, on ne peut pas mesurer 0,5%, mais vous comprenez que quand il dit « ne vous arrêtez pas là où vous vous seriez arrêté naturellement, allez juste un tout petit peu plus loin, apportez une toute petite différence, la petite touche qui demande un tout petit peu plus de temps, pas beaucoup de temps, mais un tout petit peu plus, permet déjà de se dire « j'ai progressé ». Et vous comprenez que si je prends conscience d'avoir progressé, même si c'est de 0,1% au lieu de 0,5%, mais que je suis allé un tout petit peu plus loin que là où je serais allé naturellement, j'ai progressé. Si vous courez le matin, que vous allez faire de la muscu, que vous faites de la marche, ou que sais-je, et que d'habitude, par exemple, vous faites 10 pompes, et que 10 pompes, c'est votre maximum, eh bien faites 10 pompes et un tout petit peu de la pompe suivante. N'en faites pas forcément 11. Initiez le geste suivant, vous avez déjà progressé. Cette prise de conscience me paraît formidable parce qu'elle sème du progrès en permanence et elle participe à améliorer l'estime de soi, le regard sur soi. On n'est pas en train de mesurer une réussite, on est en train de mesurer un progrès. Même s'il n'y a pas de réussite, il peut y avoir progrès, même si c'est de 0,5%. Le deuxième accélérateur de bonheur que je vous propose, c'est de passer à l'action, le passage à l'action. Alors c'est vrai qu'en début d'année, on peut facilement avoir envie de se dire « je vais prendre de bonnes résolutions et faire des choses ». Je vous invite à aller écouter le podcast de l'année dernière sur lequel j'ai parlé des bonnes résolutions. J'avais pas envie de m'arrêter là-dessus cette année parce que je pense que celui de l'année dernière était déjà très enrichissant. Il y a eu des retours très positifs, constructifs sur ce podcast-là. Donc allez vous en nourrir. Par contre, c'est généralement non pas dans la capacité à prendre de bonnes résolutions que nous nous trouvons en difficulté pour accélérer notre bonheur, c'est plutôt dans le passage à l'action. Parce que la bonne résolution, vous comprenez qu'on est assis dans un siège, les bras croisés, éventuellement on a son cahier de vie, ce que j'espère, avec un stylo et on est en train de les écrire. Cette année, je prends la bonne résolution de ceci et de cela, et je veux ceci et cela. Et ça, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, a priori dans notre tête, surtout si on a une tendance à procrastiner, c'est le passage à l'action. C'est pourtant un accélérateur de bonheur. Pour passer à l'action, j'aime demander aux personnes que j'accompagne de sortir de l'idée du raisonnement, de l'analyse, alors, et même peut-être du ressenti, de l'envie, du désir, de la passion. On n'interroge aucune de ces dimensions quand il est question de passer à l'action. On passe à l'action parce qu'on a choisi de passer à l'action. Je me lève le matin, je mets mes baskets, je vais faire mon... comment on appelle ça, le 7 minutes workout, les exercices de muscu, où je suis dans mon lit, j'ai écrit d'ailleurs un article et qui est aussi enregistré en podcast, comment faire du sport dans son lit, si vous n'avez pas envie, vous êtes frileux, vous n'avez pas envie de vous lever, de sortir de chez vous, c'est compliqué, vous pouvez trouver toutes les raisons, vous êtes en pleine ville, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de bruit dehors, faites du sport dans votre lit, c'est possible. Eh bien, vous entendez le réveil qui sonne, paf! Vous ne réfléchissez pas, vous passez à l'action, parce que quand on réfléchit, on met un tampon, laps de temps. Quand on commence à s'interroger sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, on n'a pas déterminé les facteurs au préalable qui font qu'on va y aller, alors qu'il est de très loin préférable de ne pas avoir à réfléchir avant de pratiquer son exercice physique, de se dire le réveil sonne, je me lève, j'y vais. Je n'ai pas à aller interroger mes émotions, mes envies, mon humeur, la température, le climat, etc. Tout est en place pour passer à l'action. Je passe à l'action sans réfléchir. La capacité de passer à l'action sans réfléchir est considérablement aidant. On va réfléchir une fois, presque, j'ai envie de dire, une fois pour toutes, et après, on passe à l'action. Point barre. Dans la retranscription de ce podcast, je vous mettrai un lien vers l'article de magazine Psychologie qui propose, pour prendre sa vie en main, une aide en disant, je cite, « Comment sortir du cercle vicieux de l'inhibition, de l'inaction pour entrer dans celui vertueux de l'action et de la réussite ?» En avançant progressivement. Et il poursuit en donnant un exemple. « Je décide de faire quelque chose de facile et dont j'ai très envie. Je pense que je peux y arriver. » J'essaye, je réussis, je me sens efficace, du coup, j'ai envie de recommencer. » Fin de citation. Le processus que je viens de vous lire est proposé par le psychiatre Frédéric Fanget, qui propose d'autres éléments que je vous invite à aller découvrir dans cet article de Psychologie Magazine. La troisième clé accélérateur de bonheur, elle se fonde sur le choix. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai tapé carrément le verbe « choisir » en me disant « super, j'allais découvrir des choses magnifiques » et notamment sur Wikipédia qui est souvent foisonnant d'informations et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir quand je tape « choisir » sur Wikipédia, il n'y a rien. Rien de rien. C'est vide, c'est vierge, c'est blanc. Le travail reste à faire. Et je trouve ça assez symptomatique ou symboliquement intéressant de percevoir que dans ce moteur de recherche encyclopédique, encyclopédie libre, qui est la plus consultée du monde j'ai bien dit, il n'y a rien, ce verbe choisir. Est-ce à dire que nous avons une grande difficulté avec ce verbe-là ? Pourquoi ? Je ne répondrai pas à ce pourquoi. Toutefois, je trouve intéressant de constater que quand on cherche comment choisir, on tombe sur que choisir et aussi d'autres options qui nous proposent des solutions. En fait, comprenez, vous ne savez pas comment choisir, donc on va vous dire que choisir. Peut-être même me disais-je en préparant ce podcast que j'aurais préféré que le magazine ne s'appelle pas que choisir, mais comment choisir. C'est-à-dire qu'on soit sur une méthodologie, qu'on nous donne des outils pour exercer son libre arbitre, pour prendre ses propres décisions. D'ailleurs, vous l'avez vécu peut-être pendant la fin de l'année, à Noël, au jour de l'an, avec des discussions autour de tables, autour d'un verre, autour de jeux, d'activités diverses, où vous avez évoqué des pistes, des réflexions, des orientations, peut-être pour l'année qui s'ouvre devant nous. Et vous avez entendu des gens vous donner des conseils en disant « tu devrais faire ça » ou « tu ne devrais pas faire ça ». finalement, c'est une manière de dire « ce que je veux que tu fasses, c'est ça ». On n'a pas vraiment particulièrement profondément envie que les gens sachent comment choisir, on a plutôt envie qu'ils choisissent ce que l'on voudrait qu'ils fassent. Et quand on est parent, on s'entend dans cette prise de conscience avec une tendance naturelle à vouloir que nos enfants fassent ce que l'on voudrait qu'ils fassent, pas forcément ce que eux voudraient faire, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas en mesure de choisir ce qui leur est bénéfique, ce qui est bon pour eux. Bien souvent, j'entends que ça peut être tout à fait pertinent, mais ça ne l'est pas autant qu'on le pense. Déjà en jeune âge, à 4 ans, 5 ans, un enfant peut choisir si on lui donne les outils pour choisir. Non pas lui dire « tu choisis A ou B », mais comment tu vois les choses ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour faire ton choix ? Est-ce que tu as besoin d'aide pour faire ton choix ? Et nous avons cette tendance à préférer que les gens nous disent de faire ceci, de faire cela, et on va chercher des conseils pour faire ceci et faire cela. Et moi qui me promène sur des forums pour répondre à des préoccupations de manière bénévole de certaines personnes qui rencontrent des difficultés, combien de fois je vois des gens dire « est-ce que vous rencontrez le même problème et comment vous l'avez résolu ?» Mais je ne parle pas d'un problème par rapport à un lave-linge ou à un ordinateur, mais un problème conjugal, un problème personnel. Exemple, je me trouve mal au travail avec mon patron, qui me fait des remarques que je trouve désobligeantes. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de ce genre et qu'est-ce que vous avez répondu ? La question n'est pas de savoir comment, avec un fondement de principe, comment se positionner pour envisager telle ou telle chose. On est sur une recherche de recettes. Un accélérateur de bonheur nous fait prendre une distance d'avec la recette. Et parfois, on me dit, Pascal, comment faire ça en avec une attente de recette ? Les gens voudraient que je leur dise, tu fais ça, ensuite tu fais ça, et tu auras tel résultat. Et je m'y refuse, parce que je ne suis pas un distributeur de recettes. Je suis là pour vous donner des clés pour que vous soyez heureux, capable d'employer les outils que vous avez dans votre caisse à outils personnels pour les utiliser à bon escient, mais pas pour vous dire « faites comme moi ». Parce que moi je suis moi, vous êtes vous, nous ne sommes pas les mêmes. Et même quand on se ressemble beaucoup, même dans une fratrie ou une sororité gemellaire, ce qu'on propose à l'une ou à l'un peut ne pas correspondre à l'autre. La singularité valorise l'importance de vivre des choix sans pression, des choix sans impression, c'est-à-dire qu'on va récupérer la recette que quelqu'un nous a imprimée pour la mettre en œuvre, mais qu'on va opter pour des choix libres. L'accélérateur de bonheur que je vous propose consiste à faire des choix libres, sans aucune pression. Ce serait le comble quand même que de faire des choix contraints. Vous comprenez qu'il y a une sorte d'antinomisme entre ces deux réalités. Le choix et l'exercice d'une liberté. Un accélérateur de bonheur implique de faire des choix, de les assumer avec le côté positif du verbe assumer, qui est de porter les conséquences de son choix, même quand elles sont magnifiques. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est vrai que je ne sais peut-être pas faire de bons choix. Si c'est le cas, c'est votre jour de chance, puisque j'ai écrit un podcast que j'ai enregistré qui s'intitule « Comment faire de bons choix ». Il vous suffit d'aller dans la retranscription de ce podcast du jour, de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la retranscription pour vous retrouver à écouter ce podcast. Vous verrez que sur le blog, je n'ai mis que le résumé qui présente de manière concise le contenu du podcast. Vous ne pouvez donc que l'écouter, puisque l'article n'est pas rédigé dans son entier, tout simplement. Le quatrième accélérateur de bonheur, c'est celui qui consiste à écrire et à se relire. Bien sûr, l'idée d'écrire ne consiste pas seulement à écrire pour écrire, mais à se relire. Et je vais, pour ne pas répéter ce que j'ai déjà enregistré dans les podcasts qui s'intitulent « Rendez-vous avec vous-même » et puis avec le podcast pour lequel j'ai fait la publicité, je ne sais plus combien de fois, qui s'intitule « Les bienfaits de l'écriture intime », qui est disponible en podcast d'ailleurs sur les podcasts de RTL, mais je vous ai mis le lien aussi dans un des podcasts que j'ai enregistré sur Heureux Présent. Je vais vous mentionner les avantages qui sont présentés sur un blog qui s'appelle authentico.fr, un blog de développement personnel, un confrère, et qui dit que l'écriture permet de lutter contre le stress et la dépression. Ça, c'est le premier point qui bénéficie à l'écriture intime. Deuxième avantage, c'est que l'écriture intime facilite l'apprentissage. Troisième avantage, l'écriture a des vertus curatives, donc elle permet de dépasser, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et de s'améliorer finalement. Quatrième avantage, elle améliore le sommeil. Et oui, et les études le montrent en de nombreux points, et parfois il est même arrivé que je recommande à des personnes d'avoir un carnet sur leur table de chevet pour écrire avant d'aller se coucher. Cinquième avantage, c'est d'écrire régulièrement, qui permet de se développer sa créativité. Sixième avantage, c'est que l'écriture facilite la réalisation des objectifs. Septième avantage, elle améliore les qualités relationnelles, mais aussi rédactionnelles, parce qu'on a pris de la distance avec les gens et on écrit de mieux en mieux. C'est véritablement sept avantages qui sont présentés par authentico.fr. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller vous enrichir davantage de ce que vous trouverez sur ce blog avec les détails. Et j'arrive maintenant au cinquième accélérateur de bonheur, qui est de se faire confiance. Attention, se faire confiance inclut le fait d'accepter ses failles, ses erreurs, ses fautes, ses incapacités, ses inaptitudes, etc. On peut continuer la liste longtemps. Se faire confiance est nécessaire, c'est vital en réalité. On dit souvent que l'amour est le moteur le plus important, ce que nous cherchons le plus. Mais si on a de l'amour sans confiance, on n'a pas d'amour. En fait, c'est une sorte de rejet d'amour. On a véritablement besoin de se faire confiance en plus de faire confiance. Et pas que seulement de faire confiance aux autres, mais vraiment de se faire confiance à soi. Et il y a également sur Représent des podcasts là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la transcription du podcast. En plus d'un article qui se trouve sur le blog Les Éclaireuses, qui s'intitule « 10 conseils pour se faire confiance et ne plus être influencé par les autres ». Donc comprenez que finalement, on va se faire confiance à soi, exercer sa propre liberté sans pression, et ça revient au troisième accélérateur que j'évoquais tout à l'heure. Et puis je vous proposerai également un article de Doctissimo, « 10 trucs pour reprendre confiance en soi », qui sera également versé à votre avantage, ainsi qu'un lien vers un article qui a été publié sur Psychologie Magazine, se faire confiance. Vous avez de la peine à vous faire confiance? Si c'est le cas, je suis là pour vous écouter. Vous allez sur le haut de cette page de blog et vous cliquez sur Go, je passe à l'action. Vous avez 30 minutes offertes pour travailler sur votre confiance et commencer à comprendre des mécanismes que vous pourrez déclencher pour déverrouiller certains cadenas, certaines chaînes qui vous empêchent de vous faire confiance, parce que vous ne pouvez pas décoller véritablement en termes de développement de bonheur si cette part de confiance en soi comme dans les autres se trouve encore trop verrouillée. Ça fait partie des 5 accélérateurs que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ça fait partie d'un tout. Ce n'est pas un élément isolé en se disant « bon, c'est pas grave, si je prends les 4 précédents sans me faire confiance, ça ira ». Non, ça n'ira pas, parce que vous n'arriverez pas à faire des choix sans pression. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez feuilleter que choisir pour dire « ils ont dit qu'il fallait faire ça, je vais donc faire ça, parce que je peux leur faire confiance à eux, mais pas à moi ». Et puis quand vous allez écrire dans votre approche de relecture, vous direz « j'ai écrit ça, mais est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que je peux me faire confiance? Jusqu'où ?» etc. Et pour le passage à l'action, pareil, vous allez vous poser les questions, savoir, mais j'ai fait ces choix, mais est-ce que j'ai bien fait de les faire? Est-ce que ça aurait pas été mieux que je fasse autre chose? Le manque de confiance en soi est véritablement, je dirais, un handicap en termes de développement et d'assise du bonheur. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas, dans ces 5 accélérateurs, ne pas le mentionner, parce que je veux que vous partiez de là avec des outils pour débuter cette année, pour accélérer votre expérience du bonheur. Appuyez sur ces 5 accélérateurs, je dirais faites-le en même temps, symbolisez une pédale qui se regroupe avec 5 tranches qui fait que vous appuyez sur tout ça en même temps. Ne vous dites pas « je vais travailler d'abord sur un des 5 pans et puis je verrai le suivant après ». Non, travaillez sur tout ensemble. N'ayez pas l'impression que c'est beaucoup trop, ça n'est pas beaucoup trop. Vous avez besoin de jauger, c'est une manière de faire votre sauce à vous en mettant ces 5 ingrédients dans le moteur de votre accélérateur de bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous garantis qu'en mettant en place ces 5 accélérateurs de bonheur, vous aurez du bonheur, bien plus de bonheur cette année que les années précédentes. Alors surtout, s'il vous plaît, partagez-le avec des personnes que vous voulez voir plus heureuses en disant « J'ai découvert ça, super, je te dis, c'est génial !» Prends-le, utilise-le, mets-le en pratique et puis allez mettre vos commentaires sur les réseaux sociaux parce que vous savez que j'en ai besoin.